Alors cette semaine, France Culture inaugure un nouveau site où le documentaire a la part belle avec un espace dédié. Et notre semaine du coup va se consacrer à l'Homo Numericus et tous les bouleversements qu'il affecte. Jeudi, vous saurez tout sur Bombas Map, cette application de rencontre amoureuse pour smartphone qui semble scandaleuse. Mercredi, Laurent Védrine proposera une théorie de la dérive en lien avec la géolocalisation et l'expérimentation du random GPS qui permet de se perdre à volonté. Mardi, révolution numérique au bloc opératoire et confiance dans les robots. Nous suivrons en quasi direct l'ablation d'une vésicule biliaire par un éminent professeur basé à New York sur une patiente en salle d'opération à Strasbourg.
Et aujourd'hui, Irène, évocation par Marie Chartron et Vincent Deck de ce qui est devenu notre quotidien.
Oui, Hervé, sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, c'est un nouvel Hervé qui se donne à voir et sur les docs explore cette nouvelle vie numérique.
La Happy Annika. Je savais même pas.
C'était mardi.
Voilà, c'est des gens qui s'amusent.
Comment je me suis raconté ma vie numérique. Marie Chartron, Vincent Deck.
Margot, Anna, Mustapha, Mia. À quoi ressemblait votre journée numérique aujourd'hui?
Moi, je regardais les stories des gens.
C'est pas des vidéos.
Une story, c'est sur Snapchat déjà. Le but, c'est de mettre, partager des photos ou des vidéos avec, par exemple, un petit texte. Bah, par exemple, j'ai la réalisatrice Giacopola. Oui. Mais elle met un peu de tout en fait. Sa story, on dirait un film.
Et du coup, même les célébrités, ils s'y mettent en fait. Et du coup, nous, on les suit et jour après jour.
Sur Snapchat.
Voilà.
Mais sinon, elle met toute sa journée, tout et n'importe quoi, en fait. Voilà.
Une story, autrement dit une histoire. C'est donc une histoire par fragments qui se raconte et se propage sur les réseaux. Snapchat, la chasse gardée des plus jeunes, un continent léger où les adultes ne sont pas forcément bienvenus. Facebook, l'ami ambigu de toute la famille, dépositaire des traces de tous ou presque, de l'anonyme au plus en vue. Auquel s'ajoutent, bien sûr, Instagram, Twitter, pour ne citer que les plus connus, et tout le cortège des applications disparues des écrans ou à venir sur les smartphones. Fil, post, snap, tweet, retweet, story, selfie. Voir et être vu. Quelle est cette écriture de soi démultipliée, cette économie de soi qui brouille les sphères privées et professionnelles? Que racontent ces réseaux sociaux de nos vies? Que disons-nous? Que cachons-nous? Que mettons-nous en scène? Et à quel point sommes-nous visibles? Ceux que l'on entend ici appartiennent à plusieurs générations et déplient leur double numérique.
Ça défile après. En fait, là, je crois qu'elle est en train de réaliser un film avec ses amis. Et, du coup, elle partage, on va dire, les coulisses du film.
T'es limitée à combien 10 secondes,
voilà,
d'image.
Ouais, 10 secondes d'image.
Qu'est-ce que c'est un bon snap? Qu'est-ce que c'est un mauvais snap?
Les gens qui racontent leur vie. On en a rien à faire en fait. Et un bon snap, je sais pas, c'est un moment que quelqu'un a partagé et qui est cool à regarder en fait.
En fait, c'est H24 quoi.
Le Snapchat, moi j'y vais toutes les 5 minutes près, je sais pas.
Ouais, pour voir si
des personnes ont ajouté des nouvelles stories. Puis c'est hyper drôle.
Récemment, là d'ailleurs, il y a une story Paris.
Ouais.
Et depuis les attentats du 13 novembre, je crois. Par exemple, le soir où Obama il est venu, bah moi je l'ai pas appris par la télé, c'est par Snapchat.
Ouais.
Voilà, sans forcément être dans Paris.
Le moral un peu aussi. Enfin, moi je sais pas. De voir, il y a plein de gens. En fait, il y a que des sourires, des trucs joyeux dans cette story. Et ça fait du bien un peu.
J'ai essayé de devenir votre amie sur Facebook et quand je suis allée sur votre page, j'ai simplement eu la possibilité de m'abonner. C'est normal ?
Ah, alors je n'étais pas au courant. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des filtres, mais certainement j'ai dû les configurer de cette façon-là. C'est vrai que j'utilise Facebook de façon à la fois professionnelle, amicale et familiale. C'est vrai que je publie aussi des photos, des photos de mes enfants. Je publie des choses en fait qui sont à la fois personnelles et que du coup, c'est vrai que certainement il doit y avoir des filtres que j'ai dû activer, mais je suis pas du tout dans la maîtrise. Et certainement, j'ai dû filtrer. je ne savais pas exactement à quel point j'ai filtré.
Qu'est-ce qui vous a conduite à vous inscrire sur Facebook ?
C'est-à-dire qu'au départ, j'ai commencé à devenir amie avec certaines personnes de mon entourage. J'ai élargi le cercle. Il y avait aussi des copains de promo, de ma promo de conservatoire, que j'ai retrouvés en fait par ce biais-là. Et puis ça a commencé à devenir très sympathique parce que du coup on a créé aussi des groupes. J'ai aussi un groupe de lecture où on échange des lectures avec, c'est un groupe fermé, mais avec des amis que je vois assez rarement. Mais finalement on s'échange nos lectures préférées. Dès qu'il y a un roman qui nous a plu, on fait une petite note dessus et puis je trouve ça assez convivial en fait. Voilà, on fait aussi des événements avec les copains justement avec qui j'étais en cours de théâtre. On se fait un repas par an et on s'invite tous les uns les autres et on échange aussi sur la page de notre groupe. C'est pareil, c'est des groupes fermés mais le groupe de promo, il y a 80 personnes je crois dessus, c'est quand même un groupe assez conséquent. Et quand on se retrouve, il y a quand même une vingtaine, trentaine de personnes qui viennent et on se fait à peu près un repas par an et le reste du temps on se fait de temps en temps des sorties en groupe plus petit. Je trouve ça assez sympa de pouvoir garder ce contact qui est à la fois un contact pro, un contact privé. Voilà, il y a cette frontière-là qui n'est pas claire, mais qui est sympathique.
Vous avez un message ?
Oui, ben je reçois les messages. Effectivement, j'ai du mal à couper en fait de l'instantanéité. Enfin, sauf quand je suis dans le travail. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est dans un monde où, enfin moi, en tout cas, je me sens assez bien dans ce monde envahi de technologie où on peut finalement servir à droite, à gauche les informations qui viennent, le contact avec les proches, le contact avec, mon réseau professionnel. Je suis assez contente que tout ça puisse se mettre en place de façon assez aisée dans la journée.
Vous répondez aux commentaires qu'on vous envoie ?
Généralement, oui. S'il y a un commentaire que je trouve déplacé ou je peux aussi ne pas donner suite. Après, c'est assez rare parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a quand même, mais de ma part comme celle des autres, il y a quand même une espèce de politiquement correct qui est quand même instauré sur Facebook, je trouve, dans mon entourage, dans mon réseau. Ça ne gratte jamais trop. On est quand même dans un bain idéologique qui est assez proche, finalement.
Quelle est la dernière chose que vous ayez postée ?
Là, c'était suite au raz-de-marée électoral, même si je ne suis pas très dans la communication politique. J'ai posté une photo qui représente un dessin où on voit plusieurs moutons qui sont en train de regarder une affiche avec un loup. Et la légende, c'est on va voter pour le loup et ça fera réfléchir le berger. Voilà.
Est-ce qu'il vous arrive de revenir sur vos anciens posts, sur vos anciennes photos et de refaire comme ça l'historique de votre activité sur les réseaux sociaux ?
Non, rarement. J'ai dû essayer de le faire une fois pour retrouver, un poste que j'avais trouvé assez rigolo. Et ça avait pris un temps fou, en fait, de remonter le fil des postes et des années. Et donc, du coup, j'ai pas eu la patience ni l'intérêt réellement d'aller voir.
Donc ça, c'est un des premiers tweets que j'ai fait, où je disais, quand j'ai loué mon appartement, la bonne surprise, c'est qu'il y avait une cave, mais le propriétaire ne savait pas ce qu'il y avait dedans. La cave était pleine d'affaires, celle de la vieille dame décédée après 20 ans dans cet appartement. On est donc le 2 novembre 2015 et il est 11h28 à ce moment-là du matin. Et là, on voit la photo de l'intérieur de la cave, dans l'état où je l'ai récupérée, donc avec un amoncellement d'objets, de vieux cartons, un vieux matelas qui était pourri, un abat-jour, derrière la porte de la cave numéro 16. 11h34, le 2 novembre 2015, j'ai donc une cave pleine des affaires de Madeleine, dont personne ne veut. Je vais m'y plonger pour tenter d'en savoir un peu plus sur elle. Hashtag Madeleine Project. 12h58, le 2 novembre 2015... Des stocks de papeterie, des cahiers, des colliers, voilà qui nous éclaire peut-être sur la profession de Madeleine. 13h06, le 2 novembre 2015, dans une valise, plein de photos de groupe ou de classe, avec une personne en commun sur chaque photo. 10h51, le 3 novembre 2015, Madeleine avait aussi un lien ou un amour particulier avec la Hollande, semble-t-il, tout un petit cartable est rempli de guides. Et on voit sur la photo, j'ai étalé tous les guides que j'avais trouvés dans ce petit cartable, donc plein de guides avec écrit Hollande, avec des moulins, avec des paysages de la Hollande.
Ces objets, vous les avez trouvés quand dans votre cave, Clara Boudou?
Je les ai récupérés il y a 2 ans et demi, mais je les ai vraiment découverts il y a 3 mois maintenant à peu près.
Et pourquoi avez-vous fait ce choix de publier cette mémoire, d'exhumer cette mémoire sur Twitter?
Moi, Twitter, c'est un format que j'utilise beaucoup. Je suis journaliste, donc j'ai beaucoup live-tweeté, comme on dit, des événements. Donc être sur le terrain et de rendre compte de ce qu'on voit en direct sur Twitter. Donc c'est un format que je maîtrise. Sauf qu'aujourd'hui, je suis plus dans une démarche documentaire. Et donc finalement, j'ai croisé un peu ces deux mondes qui ne se rencontrent pas trop d'habitude. Mais parce que je trouvais ça bien aussi. Moi, cette cave, j'avais envie de la vider, j'avais envie de l'explorer. Et j'avais pas envie que ce soit aussi long que le temps long du documentaire. J'avais envie de faire quelque chose tout de suite. J'avais envie de m'en occuper tout de suite. Et du coup, ça m'est apparu assez logique de le faire sous cette forme-là. D'autant que je me disais que pour dévoiler les objets un par un, finalement, ça suffisait d'avoir une photo plus une légende de même 240 signes. C'est plutôt une femme qui a pas connu Twitter et qu'elle se retrouve à revivre comme ça sur ce média-là hyper moderne, alors qu'elle elle est née en 1915. Il y a un espèce de décalage qui en devient presque poétique.
Vous saviez ce que vous alliez trouver dans les valises?
Non, je ne savais pas que j'allais trouver tout ça. J'avais pas du tout pris l'ampleur de tout ce qu'il y avait là et à quel point ça racontait une vie. Du coup, dans le projet, j'ai dit « je », qui est un truc qui, quand on est journaliste, normalement, on ne dit pas. Donc, j'ai déjà franchi un pas en disant « je ». Après, je me suis mis à dire « tu », parce que je me suis mis à parler à Madeleine. Mais ça s'est fait aussi spontanément, parce que j'ai passé quand même des heures dans cette cave à ouvrir les choses qu'elle avait laissées. Et donc, c'est elle que je pensais, en fait, en ouvrant les boîtes. Je me disais « ah, c'est marrant que tu aies mis ça là ». Donc, je me suis mis à la tutoyer aussi sur Twitter. Et puis, au final, il y a eu même quelques « nous ». Quand j'ai parlé de notre appartement, parce que c'est dans cet appartement aussi qu'elle a vécu, notre cave. Donc oui, je me mets en scène. En tout cas, je suis présente dans cette histoire, forcément. Moi, j'ai 31 ans, donc je suis de la génération Y, là, tout ce qu'on dit, l'Internet, tout ça. Et avec une femme qui a traversé le siècle, qui pour moi est plutôt un siècle que j'ai appris dans les livres d'histoire. Il y a des trucs qui me parlent dans ce qu'elle a laissé, les petites boîtes, ça me touche. Donc malgré cette grande distance temporelle, je me dis qu'on n'est peut-être pas si éloigné que ça. Elle est morte à 97 ans, donc en fait elle est morte en 2012. Donc voilà, c'est vraiment il n'y a pas longtemps, elle était encore là où je suis et là où on est, là où on parle maintenant.
Vous vous êtes croisés, ou presque croisés.
On s'est ratés, on s'est retrouvés, on s'est retrouvés dans la cave. Puis moi je continue l'enquête maintenant que j'ai trouvé tous ces objets et... Par exemple, j'ai commencé à rencontrer tous mes voisins, et certains l'ont connue. Et donc, il me raconte ce qu'elle était aussi en tant que vieille dame, ce qui n'est pas vraiment dans sa cave, parce que c'est plutôt ses années de jeunesse dans la cave. Et du coup, j'ai l'impression de la connaître de mieux en mieux. Une des choses que les voisins m'ont dit, Madeleine, un des grands regrets de sa vie, ce qu'elle avait pu lui dire, c'était de ne pas s'être mise à l'ordinateur. Bon, après, je ne sais pas, évidemment, et je ne saurais jamais ce que Madeleine aurait pensé de ce projet. Mais si elle avait envie de se mettre à l'ordinateur, je me dis que peut-être qu'elle aurait aimé ce projet-là.
Vous avez été surprise, Clara Boudou, par le nombre de personnes qui se sont mises à suivre votre projet, à vous solliciter, à échanger avec vous?
Oui, j'ai été très surprise par l'ampleur que ça a pris, le buzz que ça a créé. Après, j'imagine que ça veut dire que ça a touché les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit aussi en me parlant de leurs grands-parents, de leurs parents, de leur propre cave, de leur grenier. Donc je pense que ça a renvoyé en fait chacun à sa propre histoire.
Et s'il y a des réseaux sociaux, autant les utiliser, quoi.
Ouais. Je sais pas. Sinon, supprimez votre application, quoi.
Ah, moi, ce que je déteste, c'est vraiment les gens qui sont sur... par exemple, il y a des gens sur Instagram, mais qui n'ont aucune photo.
Et donc, on va sur leur compte et... il y a 0 photo.
Ouais.
Et le pire, c'est qu'ils ont un nombre souvent d'abonnés.
Oui, je comprends.
Énorme.
Qu'est-ce que tu utilises comme application, Margot? Puisque c'est toi la plus accro, hein, de la vie de tous.
J'utilise donc Instagram, Snapchat, Facebook, Messenger, Twitter, ouais, WhatsApp. Et c'est tout, ouais. C'est déjà pas mal. Mais bon, je vais pas tout le temps sur tout. Twitter, j'y vais presque jamais. Facebook, ça va, j'y vais de temps en temps. Snapchat, j'y vais vraiment tout le temps et Instagram, pareil. Et voilà.
Vous avez 17 ans tous ?
Oui.
Vous êtes inscrit à quel âge pour la première fois sur un réseau social ?
Fin primaire, peut-être. CM2, entre CM2 et 6e, je me suis inscrite sur Facebook. J'ai réussi à m'inscrire. J'ai menti. Enfin, j'avais déjà MSN avant, ça compte. Ouais. J'avais MSN, ça c'était au... en primaire. J'ai eu Skyblog aussi, en 6e. Mais après, j'ai arrêté parce que voilà. Et puis voilà, c'était Facebook vraiment le premier que j'utilise encore maintenant.
Et toi, Anna ?
Facebook, c'était... je devais avoir 13 ans, non même pas, 11 ans. Je rentrais en 6e. Et voilà, ma photo de profil... Genre, j'avais la tête baissée, du coup, on voyait que ma tête baissée, quoi. Bon, j'avais un petit pseudo, en fait. Bon, je le regrette aujourd'hui. Voilà.
C'était quoi ?
Bon, c'était Anna Portugaise. Mais c'était écrit d'une façon, d'une manière un peu... c'était avec un Z. Portugaise. Voilà. Je le regrette.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ta photo de profil ?
Je suis à côté de Notre-Dame, sur les quais de Seine.
Et elle regarde de l'eau. Hein.
Arrête, c'était toi qui m'avais dit de faire
photo de littéraire, ça encore. Ouais, voilà, gros cliché.
Laurence Corroy, vous êtes spécialiste de l'éducation aux médias et vous avez suivi des adolescents sur les réseaux sociaux pendant plusieurs années. Alors comment les profils ont-ils évolué ?
À 15-16 ans, on se met encore beaucoup en scène avec ses amis, avec son réseau. Les photos montrent par exemple souvent des photos soit prises avec d'autres amis, soit avec son petit ami ou sa petite amie. Et puis, au fur et à mesure, on voit que le jeune se détache de cette filiation de groupe pour peu à peu construire la sienne. Et vers 18 ans, 19 ans, il est tout seul sur la photo. Donc ça, c'est très intéressant de voir cela sur Facebook. Mais par ailleurs, il faut voir que on a vraiment changé d'imaginaire. Ça, pour le coup, ça a vraiment changé. C'est-à-dire que avant 1989, avant la chute du mur, on était dans une peur d'être contrôlé, d'être regardé, d'être pisté par l'État. C'est un peu le livre de George Orwell, qui finalement décrit un système totalitaire où on est surveillé tout le temps. Et la génération qui a aujourd'hui plus de 40 ans a été très marquée par cette idéologie-là. Et la peur d'être pistée, d'être marquée d'une certaine manière par un Big Brother. Cette peur-là n'existe absolument pas chez ceux qui sont nés après 89, mais absolument pas. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est Andy Warhol qui a gagné. On a envie d'être pisté, on a envie d'être regardé, et les médias servent à se mettre en scène, à être regardé et regarder les autres. Donc du coup, il n'y a aucune méfiance par rapport aux médias et par rapport au fait de s'exprimer dans l'espace public. Pas du tout. On le trouve absolument pas chez les ados. Et ça, pour le coup, ça a beaucoup changé.
Pourquoi Andy Warhol ?
Andy Warhol promettait que chacun ait un jour son quart d'heure de gloire par la télévision. De fait, on l'a pas eu par la télévision, excepté peut-être avec le tournant qu'a pris la télévision avec la télé-réalité, mais on l'a eu par Internet. C'est-à-dire que n'importe qui peut poster une vidéo sur YouTube et qu'elle fasse le buzz. Et d'ailleurs, les plateformes de blog le savent très bien. Par exemple, Skyblog fait un classement très régulier des blogs les plus vus. Ils ont très bien compris que la célébrité est une valeur positive. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on poste finalement, si ça plaît et si c'est regardé et si c'est repris, c'est une valeur en tant que telle. Donc la valeur de la célébrité fonctionne totalement chez les jeunes. Il n'y a pas que les jeunes qui pensent cela, parce que les banques s'en servent pour les adultes, puisque par exemple, pour vous prêter de l'argent, une banque peut être tentée de regarder votre profil Facebook et le nombre d'amis que vous avez, dans la mesure où plus vous avez d'amis, plus elle estime que vous avez peu de chances de vous retrouver en perte de lien social et donc d'être en perte d'emploi ou de ne pas retrouver d'emploi si vous aviez ce type de mésaventure. Donc toute la société partage l'idée quand même, et donc c'est une valeur, que plus vous multipliez les contacts sur le réseau, plus vous êtes inséré socialement.
Alors, j'ai ouvert ce blog en février 2010. À l'époque, j'étais enceinte et je m'ennuyais ferme. Depuis, je partage ici mon quotidien de maman parisienne de deux enfants, mais aussi de femme et amie. Je suis passionnée de photos et j'adore capturer des petits bouts de vie instantanés de mon quotidien et les partager. Tous les dimanches, je vous raconte d'ailleurs ma semaine en Instagram. J'aime que mon blog soit un lieu de partage, sans jugement et dans le respect de chacune. Nous avons tout à apprendre de l'autre.
Vous êtes très active sur les réseaux sociaux et sur ce blog qui fait partie des blogs entre guillemets influents. C'est ce que semblent dire les classements. Vous livrez des choses assez personnelles de vous en fait. Quand on regarde vos chroniques, il y a une espèce d'alternance entre des photos de voyage, mais aussi des choses qui sont plus intimes ou de parler d'une relation amoureuse qui s'émousse, d'une séparation. Dans quelle catégorie on pourrait ranger ce blog ?
Alors, en 2010, on m'a rangée dans la catégorie famille, maman, parce que je parle essentiellement de mes enfants. Et maintenant, on me range dans la catégorie lifestyle.
Qui ?
Je pense que c'est les marques.
Vous avez été approchée par les marques ?
Oui, je suis approchée régulièrement par des marques, effectivement. Ça va d'un test de produits de beauté à un voyage.
Vous avez été tentée d'en vivre ?
Alors, en vivre, non, parce que je ne me vois pas faire du rédactionnel pour des marques.
Qu'est-ce que vous faites comme métier ?
Je suis directrice de crèche. Après, c'est vrai qu'il a fallu que je me raisonne un petit peu, enfin que je réfléchisse, parce qu'il y a un côté tentant, en tout cas, d'accepter tout. Tester de la lessive, boire de la soupe, ça peut être avoir des jeux, aller faire des sorties... Enfin, tous les jours, je pourrais parler de marque et c'est pas ce dont j'ai envie, en tout cas. Après, effectivement, partir en voyage, c'est... Faut pas se mentir, c'est un gros plaisir personnel, évidemment, de profiter de toutes ces opportunités.
Vous êtes allé où en voyage, par exemple ?
Alors, cette année, ça a été très très riche, puisque j'ai commencé l'année en allant en Nouvelle-Calédonie et je suis partie récemment à Dubaï aussi, pour mettre en avant... la compagnie Emirates et la destination, les deux, pour les familles.
Du coup, c'est un drôle de micmac, en fait, ce récit où à la fois il y a beaucoup de vous, de votre quotidien, de votre intimité, et puis de ces marques comme ça qui arrivent et qui s'installent dans votre vie.
Je me suis limitée à parler des marques essentiellement le dimanche, globalement, à l'occasion de ma semaine en Instagram, où j'en profite pour mettre des photos, souvent de Paris, et puis éventuellement de produits que je peux recevoir ou de sorties que je peux faire. Le reste de la semaine, en théorie, parce que ça, tout peut arriver, mais c'est souvent des billets personnels, davantage. Donc les marques sont présentes essentiellement le dimanche sur mon blog.
Alors là, en vrac, si on regarde la page, hop, 30 septembre 2015, où l'on parle de lassitude. 27 septembre 2015, ma semaine en mots et en photos Instagram. 17 septembre, il y a des hauts, il y a des bas.
On voyage un peu plus là. Ah voilà, on voyage beaucoup là sur cette page. Donc l'île d'Aix à bicyclette, le cœur de veau en ULM, Bruxelles. Bruxelles, j'ai été invitée à tester un service de bus. Aller à Bruxelles en 3h30, c'est beaucoup plus drôle qu'une heure en train. Et du coup, c'était l'occasion d'y faire du tourisme.
Donc le marché, c'est vous tester et vous faites un petit billet dessus.
Alors, il n'y a pas de marché établi encore à ce jour. Je pense que dans les mois ou années à venir, il y aura sans doute des contrats qui seront posés davantage. C'est le jeu implicite de vivre des choses, d'en parler, de mettre des photos et de faire vivre ce qu'on vit. Mais il n'y a aucune obligation pour l'instant.
Ok, alors là, c'est des filles qui sont dans une attraction. Donc là, on voit à Londres, apparemment, il y a une fête foraine. Ça a l'air cool. Oula. Comment ils ont réussi à filmer là-dedans? Si je devais enregistrer tous les snaps que je fais en une journée...
Je sais pas, 5 peut-être par journée. Ça fait beaucoup quand on enregistre tous les jours, je pense. La mémoire après.
Ça vous angoisse pas un peu de laisser toutes ces traces sur le net?
En plus, hier, j'étais en train de regarder, j'ai tapé mon nom sur Internet. Au revoir. Non, mais arrêtez. Si, ça m'angoisse, moi. Les patrons et tout ça, ils regardent beaucoup sur Internet pour voir ce qu'il y a de nous, en fait. Et moi, ça m'angoisse. Et en plus, il y a des trucs que j'arrive pas à supprimer. Alors, du fait que je traîne beaucoup sur tous les réseaux sociaux, un peu tout.
Mais par exemple, le fait de laisser une trace quelque part, ça peut être chouette aussi. Parce que dans 10 ans, comme quand nos parents nous racontaient « Ah, moi, quand j'avais ton âge, je faisais ça. » Si on a des enfants un jour, eh ben, ça me paraît ouf. Mais ils pourront aller voir sur notre Instagram comment on était quand on avait 17 ans. Du coup, on laisse quand même une part de notre personnalité. Les gens savent ce qu'on aime. Après, ce qu'on n'aime pas, c'est plus difficile.
Ça peut être aussi pour laisser une trace à vos enfants, par exemple.
Ah, je sais pas, il y aura trop de traces. Alors, je pense, quand ils seront en âge d'aller regarder, je sais pas si ce qu'il en restera. Ça, je ne sais pas. Peut-être quand mes enfants auront l'âge d'aller regarder, ils regarderont, mais peut-être qu'ils n'auront pas du tout envie non plus d'aller regarder ce qui a été posté quand ils étaient petits. Et puis finalement, c'est pas très grave. Finalement, le côté qui est très éphémère des réseaux, moi, me déplaît pas. C'est aussi pour ça que bon, j'avais essayé de regarder une fois, remonter le fil des posts Facebook, et j'avais vu que c'était très long et très parcellaire. Et au départ, je m'étais dit « Ah bah c'est dommage », et puis finalement, pourquoi pas ? C'est plus rassurant aussi. Voilà, ça c'est mon compte de photos de ma fille, des cookies que j'ai fait. Je suis allée à Turin, on est allée en vacances. Mais ça, c'est des clins d'œil à des copains, en fait, parce qu'on a testé beaucoup de glaces artisanales. Et du coup, voilà, je publiais aussi les photos des glaces et des cappuccinos incroyables. Et puis, c'est quand même très axé famille ou axé vacances. Donc finalement, j'avais pas réalisé, mais mon compte Instagram, c'est beaucoup des vacances. Et c'est en fait...
Elle se plaint énormément sur les réseaux sociaux. On a dans notre classe, on a un groupe Facebook. Et Margot, à chaque fois, moi je reçois toujours la petite notification de Margot, pratiquement chaque soir. Elle est là.
T'exagères un peu.
Soit elle demande les devoirs, soit elle se plaint. Et Mia, Mia, c'est plus la touriste. Hein. Elle voyage beaucoup. C'est par Facebook qu'on voit qu'elle voyage quand même pas mal. Surtout avec cette dernière photo de profil où on la voit aux États-Unis, elle est là, pieds nus, avec un petit châle sur la tête. Voilà, on dirait qu'elle fait Koh-Lanta avec ses chaussures juste à côté.
Moustapha, engagé, si je devais dire un mot, je pense. La dernière fois sur Snapchat, quand il y a eu les attentats, il a, je crois le lendemain ou après, ouais, il a été faire un petit tour dans Paris, place de la République, et il a mis au moins 30 snaps de... Nous sommes la France, tous unis. Ça a remonté le moral, quoi, un peu, de voir tout ça, quand même. Donc, ouais, voilà, c'est plus ça, Moustapha, en fait. Même sur Facebook, c'est la même chose. Ah, il y a aussi le foot. C'est un homme, quoi.
Et en fait, pourquoi vous échangez tout ça?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que nous vivons à travers le regard d'autrui.
On continue le fil des tweets.
Celui-là, par exemple, c'est un tweet que j'ai fait le deuxième jour, donc le 3 novembre 2015 à 13h, où là, je venais de découvrir dans la cave les diplômes de Madeleine. Et donc là, j'ai tweeté « Née le 7 mars 1915, Madeleine aurait eu 100 ans, puisque j'ai trouvé sa date de naissance sur les diplômes. » Le 4 novembre 2015, à 11h10, « Allez, devinette, quoi dans cette grosse boîte ?» Et donc là, on voit sur l'image une grosse boîte, en effet, comme une grosse valise que j'ai trouvée dans la cave marron, qui est fermée. Et donc, le tweet suivant, Le même jour, le 4 novembre 2015, 11h16. Non, pas des vêtements, pas un instrument, mais des patins à glace. Et là, on voit l'image, donc la boîte ouverte et les vieux patins en cuir de Madeleine. Et donc, j'ai rajouté encore un tweet derrière, le 4 novembre, toujours à 11h16, avec écrit, entre parenthèses, « Moi aussi, j'adore la patinoire Madeleine ». Le 4 novembre 2015, 11h50, et donc oui, Madeleine collectionnait les Historia. Et là, on voit des cartons qui sont remplis de numéros de la revue Historia. Et là, sur la photo, on voit un petit papier sur lequel Madeleine avait écrit les numéros d'Historia qui lui manquaient dans ces cartons-là. Le 4 novembre 2015, midi 20, tombé d'un livre, je ramasse par terre un papier. Oh, c'est une liste de courses de Madeleine. Et en effet, sur l'image, on voit cette petite liste que j'ai trouvée. Donc, carottes, un, poireaux, pâté, orange, vin, journal. Le 4 novembre 2015, midi 53, est-ce que toutes les grand-mères n'ont pas la même écriture? Et à ce tweet-là, il y a beaucoup de gens qui ont répondu « Ah, mais c'est ce que j'allais dire, ah, mais oui, c'est vrai. » Parce que je pense que ça a renvoyé tout le monde à sa grand-mère, en fait, cette histoire. Le 4 novembre 2015, 13h17, dans le carton papeterie, il y a aussi la liste de tes vacances. J'ai l'impression que tu m'as laissé des indices. Et sur la photo, en effet, j'ai trouvé cette liste en 1925, Cailleux, en 1926, Holt. Et donc, elle a laissé cette liste. Et moi, j'ai des gens qui m'ont envoyé, après avoir vu cette liste, par exemple, des photos de Cailleux. Par Twitter, des photos de Cailleux en me disant « Regardez à quoi ressemble Cailleux, là où Madeleine a été en vacances en 1925 et en 1931. » Le 4 novembre 2015, 13h24, « Voilà pour aujourd'hui, demain on s'attaquera à cette valise-là. » Là, avec une photo d'une des nombreuses valises présentes dans cette cave.
Twitter ?
Ouais, j'utilise Twitter, mais j'y suis moins depuis un certain temps parce que, je sais pas, avant, c'était plus... on avait plus des célébrités qui tweetaient, tout ça, et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, en fait. Enfin, la vie des gens que je connais, je l'ai partout, en fait. Je l'ai sur Snapchat, je l'ai sur Instagram, je l'ai sur Facebook. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment les tweets, ouais, je sais pas, de célébrités. Je suis Xavier Dolan, par exemple. Allez, je le prends. Mais maintenant, il y a plus, c'est plus bah, justement des gens comme vous et moi, quoi. Genre, ils aiment bien raconter leur vie, les gens. Genre, j'ai mangé un gâteau à 4 heures. Voilà. Je dis ça parce que moi, je tweete pas beaucoup, en fait. Je retweete plus que je ne tweete pour pas que les gens croient que...
C'est très, très... très très politisé depuis un certain moment. On y voit les membres du gouvernement, les membres de l'opposition, tous les partis sont sur Twitter, tous les partis sont sur les réseaux sociaux en général.
On les voit beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est bizarre en fait. Mais en fait, je me dis que c'est pas plus bizarre que de voir des célébrités au final, mais bon, je sais pas.
Dans un canapé et qui regardent leur fil d'actualité Twitter et qui sont là, oh, je réagis. En fait, c'est pas eux qui. C'est quelqu'un qui a leur compte.
Daniel Leca, vous avez une double casquette de consultant en influence et de politique à l'UDI. Est-ce que les réseaux sociaux sont vraiment incontournables ?
Oui, après, c'est la capacité à être, pardon du terme, hein, mais opportuniste en matière de communication. Par exemple, si effectivement vous tweetez sur COP21, vous avez touché des réseaux qui sont attentifs au sujet concernant COP21. De la même manière, lorsque vous commentez un événement politique en direct et que vous réagissez sur cet événement politique en utilisant le bon hashtag, vous êtes référencé. Et donc du coup, effectivement, vous pouvez toucher des gens qui, eux, ne se seraient pas naturellement exposés à votre message. Donc c'est ça. C'est, en réalité, les réseaux sociaux, il faut avoir cette idée d'être opportuniste en matière de communication, savoir commenter, réagir au bon sujet et au bon moment. Et on a effectivement les classements des tweets, on a les classements des hashtags les plus utilisés. Et si on utilise ça, on peut effectivement, là pour le coup, être plus retweeté, plus visible, plus lu, plus, et donc du coup plus audible. tous les partis essayent d'exploiter les réseaux sociaux, mais peu d'hommes politiques ou peu de campagnes politiques intègrent les réseaux sociaux comme étant une stratégie de communication à part entière. On a en France une approche qui est assez peu moderne des réseaux sociaux, dans le sens où on essaye d'utiliser les réseaux sociaux pour ensuite surgir dans l'agenda médiatique classique. D'ailleurs, la presse joue le jeu, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas un papier dans la presse classique qui n'a pas sa petite rubrique « le tweet de la semaine » ou « le buzz de la semaine ». Et le but du réseau social en France, c'est de faire le buzz. On ne convertit personne sur les réseaux sociaux. On convainc, on rassure, ou on active, mais on ne convertit personne. Et c'est ça la limite, en réalité, des réseaux sociaux, y compris pour les partis politiques classiques. Vous n'avez des gens qui ne s'exposent à vous que soit parce qu'ils vous sont opposés complètement, ou alors vous avez des gens qui sont convaincus et qui, du coup, s'exposent à vous parce qu'ils sont déjà convaincus. Donc, en réalité, les réseaux sociaux n'ont absolument pas révolutionné l'attitude des politiques à l'égard des citoyens. Ça n'a simplement donné qu'un outil supplémentaire de mobilisation de réseaux. Au fond, les réseaux sociaux n'ont été pleinement utilisés, pleinement performants dans les pays qui ont une culture de la communauté. Le meilleur exemple, c'est sans doute la campagne de Barack Obama. Vous aviez à l'époque des communautés qui s'étaient réunies, des communautés d'enseignants, des communautés de chercheurs, des communautés de médecins, des communautés d'étudiants. En France, on n'a pas cette culture de la communauté. On ne va pas se réunir entre enseignants pour dire « bon, on va recevoir un candidat qui va nous parler de l'enseignement ». Ça n'est pas dans notre mode de fonctionnement. Donc en France, ça ne fonctionne pas. Ensuite, vous avez un deuxième type de pays où en réalité ça fonctionne, où les réseaux sociaux prennent une ampleur politique extrêmement importante, c'est évidemment les pays où la communication est contrôlée. Où là, vous avez une puissance des réseaux sociaux qui est une réalité. Si on devait se limiter uniquement à ce qui existe sur les réseaux sociaux, on serait totalement hors sol. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, quand même, de ceux qui votent, ne sont pas sur les réseaux sociaux. On voit 50% des Français seulement se déplacent pour une élection régionale, par exemple. Sur ces 50%, vous savez que beaucoup de personnes âgées votent. Ces personnes âgées qui ont plus de 65 ans n'utilisent pas forcément les réseaux sociaux, en tout cas ne l'utilisent pas comme pour voir des messages politiques. C'est un monde artificiel sur lequel on touche finalement assez peu de gens et où globalement, encore une fois, vous ne touchez que des convaincus ou des opposants qui de toute façon ne seront jamais convertis. Donc c'est un autre monde, c'est pas le vrai monde.
Bonjour.
Vous avez chargé quelque chose? Sinon, tu peux lui passer.
Ben, comment passer ça?
Tu cliques droit.
À droite. Et après?
Annule.
C'est pas qu'est-ce qu'il fait là.
Voilà.
Vous pouvez dire, c'est qu'est-ce qu'il a fait.
Double clic.
À droite?
Non, à gauche.
Je dis Gaël Denossé, vous pouvez nous expliquer un peu la configuration de ce lieu? Qu'est-ce qui se passe ici?
Alors ici, on est dans un espace public numérique. Ici, c'est espace 19 numérique. Donc c'est une salle informatique dans laquelle on donne des cours, principalement pour aider les gens un peu à recoller remonter dans le train du numérique pour ceux qui n'ont pas forcément pu monter à bord à temps. On a des gens en recherche d'emploi, sur les démarches en ligne. On a aussi des services spécifiquement pour les seniors, pour les jeunes avec un peu de bidouille. Voilà, il y a des gens qui sont très isolés socialement et qui voilà, sont contents de participer à nos activités.
Vous pouvez nous présenter peut-être?
Alors monsieur, j'ai oublié votre...
Oui. Bonjour. Bonjour. Je recherche du travail depuis environ 3 mois et ce lieu me permet d'interroger déjà mes boîtes email, les institutionnels, c'est-à-dire la Sécurité sociale, la CAF, Pôle emploi, mon dossier Pôle emploi, ce qui est essentiel. Et je clique là et tout arrive. Les photos, traductions, Gmail, YouTube, mon compte, rien que là. Et si on ne vous l'a pas appris, vous ne pouvez pas le savoir. Par exemple, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de savoir quand j'allais recevoir ma prime Noël du RSA. Donc je tape caf.fr et ça me permet de programmer un budget, si vous voulez, pour Noël et le jour de l'an. Voilà. Donc tout ça, c'est dans une ambiance conviviale, sympathique, avec le café, et on arrive, on nous accueille gentiment, et avec monsieur Dénessé, c'est très gentil. Hein.
Vous êtes inscrit sur un réseau social?
Facebook, se faire connaître sur Facebook, non, je préfère pas. Je n'ai pas un cursus suffisamment intéressant et passionnant pour me permettre. Ma formatrice, Julie Mouret, elle a un cursus qui lui permet d'avoir la prétention d'être sur Facebook, mais personnellement, pas le mien.
Il y a aussi des gens qui utilisent les réseaux sociaux sans avoir de choses particulièrement passionnantes à y mettre, ou sans être extraordinaire, quoi.
Oui, c'est sûr, mais sur Facebook, on compte combien d'inscrits ? 25 millions, il me semble, 30 millions, beaucoup plus encore.
1 milliard 500 000.
Ah oui, quand même. Alors, j'étais pas up to date, comme on dit. Je ne suis pas up to date, comme on dit. 1 milliard, quand même. Ah oui. Ah oui, alors.
On va vous laisser travailler.
Merci.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
Vous travaillez depuis 10 ans ici. Et qu'est-ce que vous avez pu constater comme évolution, Judika Aldenessé?
On voit bien qu'il y a une sorte de patate chaude que tout le monde se refile. Parce que là, on parle d'accès au droit. C'est ça le truc. C'est plus seulement une pratique. C'est vraiment l'accès au droit. Et donc, nous, on se retrouve. C'est pour ça que j'ai coutume de dire qu'on est un peu la voiture balai du numérique. C'est-à-dire qu'après nous, c'est le néant. Là, il y a des choses, c'est plus possible. Si on n'a pas d'adresse email, c'est plus possible.
Comment vous présentez le réseau social quand vous faites un atelier avec les adhérents à l'espace 19?
Il faut savoir qu'on a des adhérents qui sont, pour le coup, très isolés socialement. Donc, de réseaux sociaux, de toute façon, ils n'en ont pas vraiment. Et de se rajouter un Facebook ou un Twitter, ça aurait, en fait, pas vraiment de sens, puisque ça serait juste, à la limite, pour après, peut-être en rajouter une couche sur le fait qu'ils n'ont personne à rajouter, en fait. Donc, un peu le truc double peine. Je participe pas à ce truc-là où il y a 1 milliard de personnes qui sont dessus. Et en plus, si j'y vais, de toute façon, il ne se passe pas grand-chose de plus. Après, on fait aussi des ateliers un peu séparés qui, là, sont plutôt pour les parents d'ados qui eux, sont bien gavés de réseaux sociaux et eux, ils comprennent pas grand-chose de ce que font leurs gamins. Mais voilà, on donne un peu des clés de lecture. Là, on est en train d'écrire un projet par rapport à la radicalisation. Parce que, bon, dans le 19e arrondissement, on a déjà eu des échos de je crois, dans une des cités pas loin, avec un jeune qui était parti en Syrie. L'idée de ce protocole, c'est de pas de commencer à s'intéresser à un jeune, par exemple, quand on voit qu'il commence à agir un peu bizarrement, s'enfermer, avoir ses habitudes qui changent, mais plutôt donc nous former les parents à qui puissent vraiment prendre en main l'outil numérique. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de les remettre au centre de la prévention et du coup de pas commencer à s'y intéresser quand il y a des risques, mais d'être là pour accompagner. Donc ça peut être effectivement après des conférences plus précises sur les risques très précis d'endoctrinement, d'études de sites, des revues qui circulent, des films de propagande, etc.
Est-ce que vous avez pu constater une forme de radicalisation en lien avec les réseaux quand vous vous déplacez auprès des électeurs, Daniel Leca?
Ce que nous, on constate, c'est que sur le terrain, globalement, puisque j'ai cette expérience de terrain en tant que candidat et en tant que porte-parole, c'est que depuis quelques mois, voire même maintenant peut-être années, surgissent des sites internet ou des profils Facebook qui sont des profils qui mettent en avant des théories complotistes, qui prennent une importance très particulière sur les réseaux sociaux et qui sont ensuite sur le terrain relayés par des gens que vous croisez, qui se disent notamment voter Front National, parce que c'est principalement le Front National qui exploite ces théories du complot pour se légitimer et montrer que les propositions qu'ils font sont légitimes parce qu'elles se fondent sur un certain nombre de rumeurs. Et c'est un peu une méthode d'endoctrinement qui existe, que l'on a en réalité dans les méthodes d'endoctrinement dans les sectes, que l'on a dans les méthodes d'endoctrinement sans doute dans les réseaux djihadistes, avec « on cherche l'ennemi ». On l'identifie. L'ennemi, ça peut être le musulman, ça peut être le juif, ça peut être n'importe quel autre ennemi qu'on identifie, la finance mondiale, le banquier. On trouve un complot. Et ensuite, de fil en aiguille, on arrive à dérouler une sorte de théorie qui donne raison aux arguments politiques que vous portez. Et c'est ce qu'on voit notamment au Front National. Et les réseaux sociaux facilitent ça. Cette communication, cette viralité. Vous avez sur les réseaux sociaux des veilleurs, des gens qui surveillent des personnes qui prennent des positions. Et vous êtes ensuite contacté, vous êtes demandé en ami par ces mêmes personnes qui, du coup, relaient régulièrement des articles. Et naturellement, notamment sur Facebook, les articles sont auto-générés, donc apparaissent si vos contacts partagent des articles. Et en réalité, assez vite, si vous acceptez 10, 15, 20 personnes issues de ces mouvances-là, et vous avez assez vite toute une série d'informations qui vous apparaissent sur votre mur Facebook, et vous êtes du coup dans une sorte de spirale où vous n'avez que des informations qui, en gros, viennent alimenter ce vers quoi vous tendez un peu naturellement. On ne convertit personne sur les réseaux sociaux. On convainc, on rassure, on active, mais on ne convertit personne. Et c'est ça la limite en réalité des réseaux sociaux, y compris pour les partis politiques classiques.
J'ai encore rangé mon portable. Tu peux pas se le faire confisquer.
Ça t'arrive ça?
Non. Parce que non. Je fais pas de snap en cours, mais vous faites des snaps en cours vous?
Non.
Si, j'en ai fait aujourd'hui, j'avoue. On regardait un film Gang of New York et j'ai fait un snap. Voilà. Juste pour dire que je l'avais vu.
Vous sentez que vos parents sont vraiment décalés par rapport à votre usage de Facebook, de Snapchat, de tout ça?
Ma mère, en ce moment, elle est beaucoup sur Instagram. Elle adore poster des photos. Mais sur Facebook, elle a Facebook, elle fait rien du tout. Mais je crois qu'ils veulent s'intégrer, ils veulent aussi...
Moi, ma mère, elle veut que je lui crée un Facebook, là, prochainement. Parce qu'elle veut ses propres amis, elle veut voir les autres poster des trucs. Et...
Vous êtes plutôt gentille, alors, finalement. C'est plus facile pour faire connaissance avec quelqu'un de passer par les réseaux sociaux quand on drague, quand on a envie de connaître quelqu'un, c'est plus simple ou...
C'est quand même vachement plus pratique.
Toi, Mustapha, t'as déjà dragué sur les réseaux sociaux?
Non, moi je suis très vieille école. Moi je drague en vrai.
Moi je vois les conversations et c'est pas sûr, c'est pas en vrai. Non,
moi je vois vraiment les gens, tu vois. Oui, WhatsApp ou autre.
Je veux dire, tu es une soirée,
oui.
Tu rencontres une fille, tu flashes.
Oui.
Mais cette fille, tu la reverras peut-être pas en fait.
Ouais, à la limite, oui, Facebook, voilà. Ou Snapchat. Ouais. Aujourd'hui, sur Facebook ou Snapchat, mais avant, c'était plus le numéro, je trouve.
Non, si, c'est 10 fois plus facile et fluide de parler avec quelqu'un sur Messenger. Vu qu'on voit pas la personne en face, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très timide quand je connais pas... Je rigole tout le temps quand je suis mal à l'aise, alors c'est trop bizarre. Donc autant que je parle sur Facebook... Non, mais c'est vrai.
On envoie un petit message Messenger, genre... Oh, c'est quoi les devoirs pour demain? Et après, soit ça passe. Non, mais je parle pas forcément de moi. Allez, on demande les devoirs et on passe à autre chose. Soit ça marche pas du tout. On demande les devoirs et la conversation se termine salement.
Le OK à la fin. Ah oui, okay, OK avec un point, ça. Ça veut dire ne me reparle plus jamais. C'est ça.
C'est
la fin de notre conversation, mais vraiment. Viens plus me reparler, hein, c'est OK et un point.
On continue le fil des tweets.
Donc le quatrième jour du projet, le 5 novembre 2015, 11h05. Je te reconnais tout de suite sur les photos maintenant, Madeleine. Parce que là, j'étais tombée sur un album... Enfin, il y avait beaucoup dans cette cave des photos en désordre dans les valises, mais aussi cet album où là les photos étaient bien rangées. Et du coup, c'est vrai que je reconnaissais à ce moment-là de mieux en mieux Madeleine sur les images aux différents âges de sa vie. Sur ces photos-là, c'est une jeune femme brune avec des boucles d'oreilles. Là, elle est au bord de la mer assise sur des falaises à regarder l'horizon. Ça, c'est à la fin de l'album, il y avait une série de comme des photos d'identité, mais où on peut bouger d'une photo à l'autre. Et dans cette série-là, il y a des photos de Madeleine où elle est toute rieuse, toute espiègle, à regarder en l'air. Donc là, c'est le 5 novembre 2015, 11h20. « Comme tu avais l'air rigolote, là, Madeleine. » Et je trouve que là, elle a l'air toute sympa, toute rigolote. Et que c'est ce qu'ont l'air de me décrire les voisins aussi, mes voisins de ce qu'elle était, même vieille dame, l'œil rieur. Et donc après, on arrive à cette fameuse valise, le 5 novembre 2015, midi 31. Et puis, dans la valise, sous les images du monde, sous les coupures de la guerre, il y a ça. Et là, sur l'image, on voit l'intérieur de cette valise qui rassemble des paquets de lettres manuscrites. Le 5 novembre 2015, midi 38. Ces paquets de lettres, j'ai d'abord cru qu'elles étaient celles d'un père à sa fille qui lui disait « mon tout petit ». Le 5 novembre 2015, midi 40. Et puis j'ai lu au hasard celle du 11 octobre 1939. « Sois tranquille, ma petite chérie. Je n'oublie pas ma petite femme que j'aime. » Midi 46. L'automne s'avance, les bois sont magnifiques, les feuilles jaunissent et prennent des teintes superbes. Midi 53. Parle-moi de toi, de tout, que je vive avec toi le plus possible malgré la distance qui nous sépare. Midi 55. Tu me dis, mon petit chou, que tu regrettes maintenant les bons moments que nous avons passés pendant les vacances. Midi 56. Il ne faut pas regretter tout cela, mais au contraire, n'en conserver que les bons souvenirs. Midi 56. Il avait l'air bien ton loulou, Madeleine. 13h26. Il y a des lettres de loulou jusqu'en 1943. Il semble toujours à Paris. 5 novembre à 13h27. Et après 1943, que s'est-il passé pour loulou et entre toi et loulou? 5 novembre à 13h31. En tout cas, j'ai bien compris, Madeleine, cette valise, c'est celle de loulou. 13h32. Je vais en prendre soin, c'est d'ailleurs la seule que j'ai remontée chez moi. Et donc le dernier jour, le 6 novembre 2015, 11h44. Dans cette valise dans laquelle je suis retournée, les choses étaient différentes. 11h49. Au fond de la valise, bien à plat, une enveloppe blanche avec une croix en haut à gauche. 11h52. J'ai hésité et puis j'ai pris un de tes petits ciseaux argentés rouillés dans un des cartons. 11h56. Doucement, j'ai découpé. C'est la seule fois ces jours-ci où je me suis sentie déplacée de faire ça. Midi. Un petit faire-part au bord noir. Midi 3. Loulou est mort le 23 novembre 1943 à l'âge de 31 ans. Midi 7. Et moi justement, je fête mes 31 ans aujourd'hui. Midi 11. Comment est mort Loulou? Je ne sais pas, mais c'est le plus grand moment d'émotion pour moi dans cette cave. Ces découvertes et ce début de relation avec cette Madeleine, moi, ça m'a donné envie de continuer cette histoire. J'ai posté des fois des images d'objets, je ne savais pas ce que c'était. C'est les internautes qui ont trouvé ce que c'était, comme un vieux retardateur photo, par exemple. Et tout ça va se poursuivre sur Twitter, tous les 3 mois à peu près, je crois. Donc, a priori, la deuxième saison, c'est début février.
Est-ce que vous avez des temps morts? Il se passe rien.
Là maintenant.
Bah en cours,
quand on dort.
Ou quand je lis aussi, qui arrive très rarement. Voilà. Et l'ennui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que s'ennuyer quand on est sur les réseaux sociaux? Ça arrive?
Ouais, c'est très chiant. Quand on passe d'une application à l'autre et qu'il n'y a aucune nouveauté.
Moi j'ouvre pas toutes mes stories. Mais quand je m'ennuie, bah, je les ouvre toutes. Et puis après, je quitte Snapchat. Et 2 minutes après, je rouvre Snapchat. Comme si il y allait avoir de nouvelles stories. Mais en fait, il n'y a rien. C'est le vide. Du coup, j'ouvre Instagram, il n'y a rien. Donc en fait, ouais, c'est ça l'ennui. Pour sortir de l'ennui, je fais des recherches sur Instagram. Par exemple, je vais mettre un hashtag.
I love Corona.
Hashtag love. Hashtag, je sais pas moi.
The way you do, yellow, red, and baby blue. Every day I dream of you.
Comment je me suis raconté ma vie numérique. Merci à Mia, Anna, Margot et Mustapha, à Clara Baudou, Judica Eldenossé et aux usagers de l'espace public numérique 19, à Christelle Sévécou, Emmanuel Lévy-Blanchard, Daniel Lecas et Laurence Corroy. Coordination Irène Omelianenko, attachée d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Un documentaire de Marie Chartron et Vincent Deck pour Sur les Docks.